Bonjour à tous et bienvenue dans votre grande table. À partir de 12h55, l'écologie peut-elle être nationale? Notre invité aujourd'hui, l'essayiste et homme politique Hervé Juvin, auteur de La Grande Séparation pour une écologie des civilisations ou encore de France, le moment politique. Il vient d'accepter d'être sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes. Ensemble, nous verrons comment les idées d'un homme sont transposables à l'échelle d'un parti. Mais d'abord, Chantal Thomas nous amène à New York, retrouver les sensations d'une ville, d'un quartier dont le cœur battait au rythme des fêtes, des mots, des notes et des couleurs, d'un Burroughs, d'un Warhol et du Velvet. Une époque intense, libre et créative, celle des années 70. East Village Blues est publié au Seuil. Les images sont signées Alan Weiss et la romancière Chantal Thomas est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Je marche dans une ville qui me fut familière autrefois. Me frôle, auteur, entre autres, des Adieux à la Reine, prix féminin en 2002, et de Souvenirs de la marée basse, d'essais littéraires aussi sur Sade, Casanova, ou encore Roland Barthes, son directeur de thèse. Chantal Thomas a aussi un passé américain qu'on lui connaît un peu moins. Elle livre aujourd'hui ses souvenirs d'une époque folle où tout pouvait arriver. 40 ans après, elle a surtout refait le voyage, cherchant avec un ami photographe les traces de cette vie de bohème. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
Le rythme new-yorkais, ce sont vos mots. New-yorkais, c'est presque un adjectif qui veut dire beaucoup de choses. Pour tous ceux qui sont passés un jour par la Grande Pomme, ce rythme new-yorkais, qu'est-ce qu'il indique, qu'est-ce qu'il implique pour vous? Une énergie toute particulière?
Oui, une énergie d'aller. Il y a une manière de marcher dans New York qui est très entraînante. Il y a aussi cet effet d'ouverture sur l'infini que donnent les grandes avenues ouvertes sur l'horizon. Et quand on y pense, une sorte de grand vent qui vient de la mer. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite ravie. L'impression que, le sentiment, et c'est la vérité, qu'à Manhattan, je suis sur une île. Et ce rythme, c'est un rythme à la fois du jour et de la nuit. C'est aussi la chose qui, surtout dans les années 70, ou ici à Paris... La nuit était quand même pas tellement ouverte. Et de toute façon, ça continue maintenant où le métro s'arrête à une heure fixe, assez tôt. Arriver à New York, c'est découvrir que nuit et jour sont dans une circulation trépidante qui n'arrête pas.
Et d'ailleurs, lors de votre premier pas à New York, très brièvement, votre avion, vous rentrez d'Amérique du Sud, votre avion fait une halte de 24 heures là-bas. Vous allez à Staten Island, à propos d'île, et vous y faites une rencontre pas très agréable pendant la nuit. La première expérience de New York, outre la démesure déjà des gratte-ciel, c'est cette première nuit passée là-bas. Vous aurez néanmoins envie d'y retourner. Qu'est-ce qui s'est passé à Staten Island?
Moi, j'arrivais... du Pérou avec mon ami et on nous a indiqué Staten Island. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, de ce que c'était, ni rien. Et l'idée du ferry comme ça, quittant Manhattan et de voir toutes les lumières de la ville, c'était d'une beauté et d'une douceur particulière. Et on avait l'expérience des îles grecques et donc on est descendu et on a suivi comme ça un peu au hasard des gens qui marchaient. Et on est au bout d'un moment, c'était vraiment les ténèbres. On est entré dans n'importe quel hôtel, comme on peut faire quand on est habitué à voyager, à faire du stop. Et là, c'était très, très désagréable parce qu'on a essayé de forcer notre porte. Bon, mais c'était un premier effroi qui indiquait sûrement que cette ville, ce pays d'ailleurs, était dangereux. Mais loin de me refroidir, ça a fait partie de ma vision totale, une sorte de musique.
De New York. À 20 ans, vous êtes une voyageuse, vous êtes une marcheuse, vous commencez vos premiers voyages effectivement en autostop avant de vous rendre à New York. Vous qui avez déjà pas mal bourlingué au moment où vous arrivez là-bas pour vous y poser quelques temps, vous diriez qu'à New York, on ne marche pas de la même manière qu'ailleurs, on regarde autrement. Vous regardez quoi? Vous, le sol ou toujours en l'air d'ailleurs quand vous marchez à New York?
Moi, je regarde en l'air. Mais je regarde aussi énormément mais partout d'ailleurs, les visages, les corps, les silhouettes. Et des choses que j'ai aimées tout de suite à New York, c'est surtout à ce moment-là, l'incroyable présence de danseurs, par exemple, dans les cafés. Les serveurs ou les serveuses sont souvent des danseurs ou des gens qui font du théâtre. Et ça donne une grâce particulière.
Dans East Village Blues, Chantal Thomas, New York est un personnage à part entière de cette histoire que vous nous racontez. C'est presque une rencontre que vous faites avec cette ville comme avec une personne et d'autres que vous allez croiser. C'était volontaire ou c'était une astuce littéraire de donner vie à New York comme à un être humain, comme à un personnage de roman?
Non, ce rapport au lieu comme un rapport amoureux, c'est quelque chose dont je suis constituée. Je suis vraiment constituée de ça. Et Versailles, c'est la même chose pour moi. Versailles est le vrai personnage central de mes romans historiques. Et dans ma vie, je pourrais dire que le bord de mer compte pareil, ou bien New York, en effet. C'est une façon, je crois, d'entretenir des relations avec l'endroit où on est et de lui donner la parole et surtout de laisser advenir tout ce qu'il nous offre. C'est-à-dire tout ce qui m'est arrivé à ce moment-là, je l'ai aimé. Et c'est une célébration absolue. Quand on aime, je crois qu'on aime tout. Après, quand on cesse d'aimer, ce qu'on savait déjà un tout petit peu, qu'on détestait apparaît. Mais quand on aime, on ne fait absolument pas le partage.
C'est pour ça que l'autre protagoniste de cette histoire, c'est vous. Pas tout à fait la même là-bas qu'ici, pas tout à fait la même hier que maintenant. Quel autre étiez-vous là-bas? Comment vous vous décririez? Est-ce que chaque voyage est pour vous l'occasion d'un nouveau départ? Et est-ce qu'à New York, vous avez le sentiment de vous être réinventé?
C'est à la fois un nouveau départ, mais à partir de force ou d'énergie ou de désir latent. C'est plus des révélateurs que une sorte de saut dans une autre personnalité. Ce que New York m'a donné, c'est un rapport plus direct, plus frontal à un désir de fête et d'écriture.
Just Kids, est-ce que vous diriez, comme Patti Smith dans son récit autobiographique, qu'à cette époque-là, vous étiez juste des enfants, tous?
Non, moi, j'adore ce livre d'ailleurs, Just Kids. Mais enfant, non, en tous les cas, où je le suis toujours, mais c'est quelque chose d'être, je pense que c'est... Oui, alors on peut dire si c'est du côté de la réceptivité et de une sorte d'innocence. Oui, alors oui. Mais j'aime ces livres aussi parce que c'est aussi des romans, c'est des histoires de formation, c'est des romans... où on s'invente, oui.
Des romans d'apprentissage, presque.
Des romans d'apprentissage, absolument, oui.
Le 24 juin 1976, Chantal Thomas, quand vous atterrissez New York, c'est ce qui n'avait pas encore eu lieu, écrivez-vous, ce vers quoi vous vous tournez. Quand vous y retournez, 40 ans après, New York est désormais ce qui a déjà eu lieu. Quelle trace reste-t-il de ce passé? Est-ce que le photographe qui vous a accompagné, Alan Weiss, a pu capter beaucoup de ces moments, encore aujourd'hui, sur les façades de ce que vous aviez vécu 40 ans auparavant?
Oui, alors, je l'ai déjà dit, mais ce dispositif de revenir 40 ans après, c'est un dispositif absolument romanesque. Parce que c'est le moment où il apparaît en toute clarté que le quartier a absolument changé et d'une manière irréversible. Mais j'ai continué de fréquenter assidûment New York tout au long de ces années. Mais il y a un moment de bascule. Et c'est pour moi ce moment-là. L'ami photographe, mon ami avec qui je parcours ces rues, ce qui l'anime, ce qui nous anime, parce qu'on a pensé le livre écrit et imagé en même temps, c'est de saisir ce qui n'aura plus jamais lieu. Et de garder des traces de cet éphémère absolu qu'est l'art du graffiti. Et aussi pour qu'en lisant, le lecteur puisse imaginer des rues qui parlent, des rues qui ont un message et des rues qui, d'une certaine façon, crient qu'elles ne veulent pas perdre leur personnalité. C'est un poème. Il y a un poème en rue.
Curieux, écrivez-vous vraiment, où la pérennité va se loger. Des rangées d'immeubles sont détruites, mais des niches improbables où ont réussi à s'incruster un coiffeur, un videur de grenier, perdurent. Des images du passé, par éclats, surgissent comme réfléchies par un miroir fêlé, un miroir qui aurait été jeté avec d'autres objets abandonnés. Pas vraiment des images, mais plutôt le rappel physique d'une passion, la trace réactivée d'une dynamique. Combien marcher dans cette ville a pu m'occuper, être pour moi un motif d'existence suffisant. Non parce que j'étais la proie d'une idée fixe, mais au contraire parce que j'avais le sentiment de jouir d'une liberté merveilleuse, de savourer un luxe. C'est le mot qui revient le plus souvent, Chantal Thomas, dans ses lignes, celui de liberté. C'était celui qui qualifiait le mieux cette époque.
Oui, mais je l'éprouvais déjà à Paris, bien sûr, quand je suis venue d'Aix-en-Provence à Paris. Mais à New York, peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, la ville était en ruine et dans un terrible état de pauvreté et peu ouverte aux tourisme, pas du tout même. Il y avait quelque chose d'un peu sauvage dans l'air. Et il y avait ce rythme qui était aussi celui des musiques d'alors, qui était à la fois des gestes poétiques, musicaux et physiques, une manière de danser sa vie.
Pauvreté qui vous sautera vraiment aux yeux lors de cet été de blackout en 1977, quand toute la lumière s'éteint sur la ville. Vous racontez les scènes où chacun essaye de sortir le plus d'objets possible, de se retrouver, où on va prendre sur les tables des petites bougies pour essayer de s'éclairer.
Le moment où nous, à cette époque-là, New York est habité que par des gens très riches et par des gens très pauvres. Il n'y a rien entre les deux. Et East Village, c'est du côté de la pauvreté. C'est pourquoi la Beat Generation s'est déplacée là, parce que les loyers étaient ridiculement bas. En juillet 77, exactement le 13 et 14 juillet, ce qui est trop beau quand même, il y a ce blackout qui dure deux jours. Et très spontanément, dans l'instant, presque dans les minutes qui suivent, les gens sortent et prennent tout ce dont ils ont envie. Et il y a des violences, bien sûr, mais des violences du genre mettre le feu à des buildings. Et c'est ça qui est frappant par rapport à ce qui s'est passé en France, même si on pense à la Révolution française. C'est pas une prise de... Il n'y a pas de revendication politique. C'est pas une révolte contre un pouvoir. C'est une sorte de surgissement spontané et d'envie de prédation, de pillage effréné. Mais c'est aussi dans les rues, il y a des parties dans les rues, dans les immeubles, dans les escaliers de secours. Il y a à la fois une atmosphère de fête et une atmosphère de catastrophe. Et c'est vrai, j'ai eu envie que le livre se termine là-dessus. D'abord parce que un certain nombre de graffitis photographiés par Alan Weiss disent ce frôlement perpétuel du danger, ce risque de mort qui plane. Et aussi parce que cette nuit qui tombe sur la ville, cette espèce de nuit ténébreuse, c'est l'envers de ce qu'on a toujours dit de New York comme la ville lumière. Et il faut dire quelque chose de très émouvant, c'est que plus rien fonctionne, il n'y a plus rien d'allumé, sauf la statue de la liberté.
En tout temps, et voilà le mot liberté qui revient. Une vie de village durant ces années 70, avec son église au centre, la St. Mark's Church, avec ses saltimbanques à New York. Les poètes fleurissaient partout, écrivez-vous, dans la rue, les cafés, sans aucune inhibition, ces anonymes et ces figures. Et puis, plein d'endroits comme ça, symboliques, comme le Chelsea Hotel.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music.
Leonard Cohen chantant le Chelsea Hotel, Patti Smith et Robert Mapplethorpe vivant au Chelsea Hotel. Ce lieu mythique n'a pas usurpé sa réputation, Chantal Thomas?
Non, c'était un lieu franchement extraordinaire et assez invraisemblable à ce moment-là, puisqu'il y vivait d'abord des gens complètement disparates. Et chaque chambre avait sa personnalité, son désordre, son chaos personnel. Et on circulait comme ça d'une chambre à l'autre, d'une fête à l'autre, d'une... aussi avec des éclats de voix, des scènes, des séparations. Et bon, c'était un lieu mythique. Moi, je l'ai juste traversé. J'avais envie d'y habiter, mais il n'y avait plus de chambre.
Vous n'y avez jamais dormi une nuit?
Non, j'ai passé des nuits sans dormir, mais j'ai pas dormi.
Vous n'avez pas dormi. Invité jusqu'à midi et demi, la romancière Chantal Thomas.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il y a un visage reconnaissable parmi mille, une chevelure blanche que l'on retrouve dans les graffitis saisis, photographiés par votre complice Alan Weiss. Dans les années 70, Andy Warhol n'est déjà plus qu'une ombre de lui-même, un revenant sur le départ. Et vous le croisez de loin, mais vous évitez de croiser son regard. Vous racontez ce moment dans votre livre. Pourriez-vous nous en lire un extrait?
Je raconte comment Valérie Solanas, l'auteur de Scum, Manifesto, tire sur lui. Elle a manqué deux fois sa cible, mais à la troisième, la balle atteint Andy Warhol au poumon, à l'œsophage, à la rate, au foie et à l'estomac. Déclaré cliniquement mort, celui-ci survit, miraculeusement. Est-ce grâce aux prières de sa mère, Julia, fervente adepte du culte byzantin, ou bien grâce au chirurgien? Un miracle, mais un miracle triste. Andy Warhol, loin d'exulter d'avoir échappé au pays des ombres, sera hanté par le fait d'être déjà mort. Il assistera à ce surcroît d'existence comme à un film dont il connaît trop bien la fin et qu'il trouve ennuyeux lorsqu'il oublie l'horreur de devoir à nouveau mourir. Et c'est la mort qu'il promène avec lui quand il passe seul ou avec des amis au Tenth of Always sans Candy Darling, morte à 29 ans de la leucémie, et elle, définitivement. Pour moi, j'apercevais Andy Warhol de loin, de très loin. J'évitais de croiser ses yeux de mort-vivant. Il était celui qui pouvait dire, tel le personnage de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, la vérité sur le cas de M. Valdemar, je suis mort. Il était mort, mais il possédait le singulier privilège de pouvoir l'exprimer. Il était mort, mais il avait encore le loisir de songer à une épitaphe, de penser à ce que soit inscrit sur sa pierre tombale, ce seul mot, fiction.
Andy Warhol, il était le premier pour vous, des morts vivants, à la fin des années 70 et surtout les années 80. Beaucoup sont partis, overdose, sida, c'était déjà la fin de cette époque enchantée, de cette parenthèse que vous racontez du début des années 70.
Il est le premier, en effet, c'est une époque violente. Par exemple, lui, il y a cette tentative d'assassinat, mais William Burroughs tue sa femme, bon, par accident, mais quand même au jeu de la pomme Guillaume Tell. Ginsberg est dans un hôpital psychiatrique. Lucien Carr tue un homme pour répondre à une agression, mais c'est quand même un assassinat. C'est une époque violente, mais cette mort par épidémie et comme un désastre qui va saper toute une partie de la jeunesse et des artistes, elle arrivera plus tard avec les années sida. Ça, c'est avant. C'est un moment où la fête bat son plein.
Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Orlovsky, cette Beat Generation, pas très cool les gars, racontez-vous, mais guidés par un unique enjeu, garder l'intensité, ne pas perdre la note, la pousser jusqu'aux limites du souffle ou encore brûler. Vous ne leur en voulez pas, il y avait une urgence de vivre qu'ils incarnaient, que vous n'avez jamais retrouvée ailleurs, cette Beat Generation.
Si, je l'ai retrouvée ailleurs, bien sûr, mais elle était très, très frappante et elle était dans ce climat des fêtes new-yorkaises qui étonne quand on vient d'ici, qui est une certaine indifférence. C'est-à-dire, les portes sont ouvertes, on va dans n'importe quel appartement, on ne sait pas où on se trouve, on monte sur les toits, mais on ne vous demande pas, il n'y a pas de miroir, on ne vous renvoie aucune image. Ça, c'est extrêmement agréable, je trouve. Et l'intensité, il faut le dire, ce livre, c'est un chant de l'intensité, mais c'est une intensité que je cherche de livre en livre. C'est pas celle de nager, mais ça, c'est aussi celle de danser ou de raconter des histoires. C'est un moment où je commence à écrire et à écrire sans un destinataire précis, comme l'était Roland Barthes quand on écrit sa thèse. Mais quand on écrit, on se jette dans le vide. Et je pense qu'il y a quelque chose lié au vide qui donne envie d'écrire, en tous les cas, qui fait traverser les obstacles, les timidités ou la retenue qu'on s'impose ou qui nous est imposée. Ce que j'ai aimé, c'est ces gens, c'est qu'ils criaient leur poésie.
Et cette intensité, eux, l'a retrouvée dans une figure dont vous parlez aussi dans le livre, Chantal Thomas, c'est celle de Rimbaud. Avec eux, écrivez-vous, j'ai commencé à respirer. Ils voulaient changer le mode d'exister, prêts à innover à tout prix et à passer à l'acte. Ils prenaient Rimbaud au pied de la lettre. Patti Smith, ce magnifique écrivain, ira visiter la maison natale du poète. Sa démarche est naïve, magique, chamanique. 40 ans plus tard, justement, Patti Smith est allée au bout de son rêve en rachetant la maison du poète dans les Ardennes. Elle confessait à notre micro son attachement au lieu pour la proximité apparente qu'il lui offre avec ce qu'elle aime.
C'est une question intéressante pour moi. En fait, la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Être proche des gens que j'aime, ça peut être avec ma propre famille. En fait, c'est plus quelque chose de sentimental chez moi que d'intellectuel.
When I was a young girl, all of these people, the people that I loved and the people that I studied and read, were so far away. I lived in a very rural area, very unsophisticated.
Et quand j'étais très jeune, les gens que j'aimais, les gens que j'étudiais, les gens que je lisais semblaient si loin de moi. J'étais dans cet univers extrêmement rural, pas très sophistiqué. Et qui aurait cru qu'un jour, la gamine maigrichonne du New Jersey, qui adorait Camus, allait avoir l'occasion de rencontrer sa fille et de toucher elle-même ce manuscrit. Qui aurait cru que la fille, la jeune fille qui a 16 ans, adorait Rimbaud, posséderait un jour l'endroit même où il a écrit une saison en enfer. C'est vraiment une des choses qui, pour moi, rendent la vie merveilleuse. Tout le monde a quelque chose qu'il aime dans la vie. Ça peut être avoir une nouvelle Alfa Romeo. Pour moi, c'est vraiment être proche des gens que j'aime. Et quand on y réfléchit bien, la plupart des gens que j'aime sont morts. Mon mari, mon frère, mon chien, mes parents, beaucoup de mes amis proches. Tellement de gens, en fait, qui étaient importants pour moi, sont morts. Donc, où est-ce que je peux les retrouver, si ce n'est dans mes souvenirs, mais aussi dans des endroits qu'on a pu visiter ensemble. Et quand je passe un peu de temps sur la tombe de Sylvia Plath, j'ai l'impression de passer du temps avec une amie, de même que quand je vais voir la tombe de mon mari. Je suis en quelque sorte une amie de ces gens morts.
Et pour vous aussi, Chantal Thomas, il y a un esprit ou un génie des lieux ?
Oui, il y a un génie du lieu. Il y a... Les lieux communiquent des forces et c'est à la fois un rapport amoureux et il vous suggère quelque chose, il vous suggère une envie justement de marcher ou d'aller ou de découvrir. Quand je suis arrivée à New York, il y avait énormément de librairies, par exemple. Mmh. Et ce rapport au livre était ouvert, était chanté aussi. Parce que, par exemple, il y avait Chelsea Hotel, mais plus fort pour moi, il y avait St. Mark Church et les nuits de lecture. Et Patti Smith, sa première lecture, je crois, se passe là. C'est un chant aussi.
Elle parle de joie, d'ailleurs, pour évoquer ce qu'elle ressent dans ces moments de pèlerinage littéraire qu'elle raconte dans ce dernier récit, Devotion, pour lequel on la recevait. Vous avez, vous aussi, vous diriez, de ces années-là, une nostalgie, mais heureuse?
C'est quelque chose... Je pense que passé et présent sont vraiment tellement liés et tellement un seul souffle qu'il ne faut pas vraiment séparer. C'est ça, mais il y a un regard sur le présent qui fait qu'on est obligé de constater une différence et même peut-être une opposition absolue. Mais peu importe, ça aussi, on le traverse.
Il y a un dernier lieu sur lequel vous revenez, c'est le Bonnie and Clyde, un club lesbien aux rencontres féminines que vous faites là-bas. Il y aura cette immersion aussi à travers ce club et ses amis dans les combats féministes de l'époque. À ce moment-là, vous adhérez ou vous vous sentez assez extérieure, plutôt observatrice de ce moment?
Paris était pris déjà. Paris aussi était dans le féminisme. Le MLF était actif, ardent.
Est-ce que c'était le même féminisme?
Je connaissais les éditions des femmes. Mmh. Et le féminisme américain m'a paru beaucoup plus... il était, en tous les cas, il se trouve que j'étais avec cette amie, Cynthia, et c'était son optique. Il était plus dans des combats quotidiens, concrets. Mais là, vraiment, c'était une affaire d'histoire d'amour.
Chacun dansait comme pour soi, mais quand Tina Turner scandait « Rolling on the River » et que nous nous balancions à son rythme, alors nous ne formions qu'une seule femme. Et quand John Baez chantait « We shall overcome » et que nous reprenions en chœur, nous émettions la violence d'un combat, à pleine voix, bras levés, tête renversée, nous pulvérisions la peur d'y succomber. Chantal Thomas, vous alternez toujours entre veines autobiographiques et romans. Là, vous tournez une page après avoir raconté le passé de nageuse de votre mère et ce goût pour l'eau et la nage qu'elle vous a transmis. Vous revenez sur votre jeunesse. Vous écrivez quoi aujourd'hui? Vous repartez dans la fiction?
Je continue de penser à... Je pense deux choses. D'abord, Arcachon et peut-être du côté de mon père, qui serait aussi du côté de la fiction et de l'autobiographie fictionnelle, un peu comme ça. Et je pense aussi à continuer la veine du roman historique.
Merci beaucoup à vous, Chantal Thomas, d'être passée autour de cette grande table à l'occasion de la sortie de East Village Blues, photo d'Alan Weiss, dans la collection Fiction et compagnie au Seuil. Merci.
Merci.